Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Eau de Radio, le 91.3 FM, et vous écoutez Bail de Jeunes, l'émission qui porte sur les initiatives prises par et ou pour les jeunes de la métropole bordelaise. Au programme aujourd'hui, un reportage réalisé ce dimanche au Rocher de Palmer pour la journée intitulée Jeunesse naufragée, jeunesse engagée, à l'initiative de SOS Méditerranée. C'était une journée qui traitait de la migration et plus précisément de celle des enfants. Et cette journée s'est clôturée par un concert de Feu Chatterton, c'est d'ailleurs le groupe qu'on va s'écouter en guise de pause musicale. Et après ça, on écoutera une interview qui a été faite il y a quelques semaines, juste avant la COP27, qui vient de se clôturer en Égypte. Et on a pu recevoir Alice Munoz-Guipuy, cette étudiante d'origine bordelaise qui étudie maintenant à l'École Normale Supérieure en géographie et qui a eu la chance de s'envoler pour l'Égypte pour assister à cette COP27 en tant qu'étudiante observatrice. Elle est venue nous en parler il y a quelques semaines. Et pour finir, j'ai choisi une musique de Pomme pour illustrer cette interview qui s'appelle Les Séquoias et qui parle d'écologie et de changement climatique. Donc tout d'abord, on va écouter un reportage. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais il a été fait ce dimanche 20 novembre, puisque c'était une journée un peu particulière. C'était la Journée internationale de l'enfance et des droits de l'enfant, selon l'ONU. Et à ce titre, le Rocher de Palmer et SOS Méditerranée ont organisé une journée consacrée donc à l'enfance et à la migration qui s'intitulait « Jeunesse naufragée, jeunesse engagée ». Et donc j'ai pu assister à toute cette journée, plutôt cet après-midi. Je l'ai retracée et il y avait beaucoup d'ateliers, des lectures, des conférences et des projections de films. Et la journée s'est clôturée avec donc un concert de Feu Chatterton. C'est donc le groupe qu'on va s'écouter tout à l'heure. On va écouter leur titre « La mer ». Je crois qu'il parle de migration et donc je vous laisse tout de suite avec ce reportage qui dure une vingtaine de minutes. À tout à l'heure. Ouais. On est aujourd'hui au Rocher de Palmer pour assister à la journée Jeunesse naufragée, jeunesse engagée, organisée par SOS Méditerranée. C'est un événement dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant qui permet de sensibiliser le jeune public aux migrations, mais également de mettre en avant l'engagement des plus jeunes. Pour l'occasion, plusieurs bénévoles de l'antenne bordelaise ont fait le déplacement.
Bonjour, Florine, référente de l'antenne SOS Méditerranée à Bordeaux.
Moi, c'est Aude et je suis bénévole à SOS Méditerranée depuis 2018.
Bonjour, donc je m'appelle Thomas, je suis bénévole de l'antenne bordelaise de SOS Méditerranée.
SOS Méditerranée, c'est une association de sauvetage auprès de personnes qui fuient l'enfer libyen en mer Méditerranée centrale, qui est la route la plus meurtrière au monde.
C'est une association citoyenne qui a été créée en 2015 suite à des naufrages à répétition en mer Méditerranée. On a trois missions qui sont sauver, protéger, témoigner.
Sauver des personnes qui prennent la mer sur des embarcations de fortune, souvent depuis les côtes libyennes, qui vont en Méditerranée pour tenter de rejoindre l'Europe. Protéger pour ensuite, une fois que ces rescapés sont à bord de notre bateau, leur apporter les premiers soins et les débarquer dans un port sûr. Et puis enfin témoigner pour expliquer ce qui se passe et le drame de la migration en Méditerranée. Et donc l'association a un bateau qui s'appelle l'Ocean Viking qui porte secours aux personnes en mer.
Notre devoir, nous, et notre mission à terre, c'est celle de rendre hommage à toutes les personnes qui ont pris tous les risques et qu'on a secourues. Rendre hommage aussi à toutes celles dont les visages et les noms se sont tus en mer Méditerranée centrale et puis de sensibiliser l'opinion publique.
Essayer aussi de récolter de l'argent parce qu'il faut savoir qu'une journée en mer, c'est 14 000 euros.
C'est donc pour remplir leur mission de témoignage qu'SOS Méditerranée investit aujourd'hui le Rocher de Palmer. Cette sensibilisation aux questions migratoires, elle a plusieurs formes. On va le voir puisque je me trouve devant la porte de l'atelier lecture pour les petits, intitulé « Comment parler de la migration aux enfants ?»
La déclaration des droits de l'enfant, présentée par 10 illustrateurs. 1. Voici les droits de l'enfant. Ils doivent être les mêmes pour chacun de nous aux quatre coins du monde. 2. Nous avons besoin d'être protégés pour grandir dans la liberté et la dignité. Et parmi les personnes qui partent pour se mettre en sécurité, il y a des papas, des mamans, des petits garçons, des petites filles.
Mais comment on savait qu'il y a des noyés, il y a des personnes qui sont dans l'eau?
Eh bien, on a des moyens, on a un gros bateau, vous voyez, ça c'est un très gros bateau. Et sur ce bateau, on a des moyens pour repérer les embarcations qui sont en danger. Parce qu'on a des marins qui surveillent aux jumelles, parce qu'on a des radars, et parfois on a aussi une autre association qui s'appelle Pilote Volontaire, qui a un petit avion qui s'appelle le Colibri. Comme il est en haut, il vole haut, eh bien il peut voir beaucoup plus loin que nous avec les jumelles.
Et s'il y a plusieurs personnes en même temps qui se... Enfin, il y a un... exemple, il y a un bateau là et un bateau là, comment vous faites ?
Ben, c'est très difficile, donc on essaie dans ce cas d'appeler à l'aide d'autres associations ou les gardes-côtes pour venir nous aider. On continue ?
Évidemment, c'est pas un sujet facile à aborder. On va donc demander à l'animatrice de l'atelier comment s'y prendre.
Agnès de France, je suis bénévole à SOS Méditerranée, référente de l'antenne Héraultaise. Étant bibliothécaire, moi j'ai besoin de livres pour parler la plupart du temps, c'est mon outil de travail. Et donc dès le départ, j'ai repéré des livres qui parlaient de ce sujet parce qu'on a trouvé qu'on n'avait pas beaucoup d'outils pour parler de la migration et de sujets extrêmement difficiles et lourds pour les enfants. Et donc le livre est vraiment un moyen très très efficace de parler de ces sujets. C'est reçu différemment et on travaille aussi avec des photos d'enfants sur le bateau pour montrer un peu cette réalité vue à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que sur le bateau, ben, une fois que les enfants sont soignés, sont rassurés, ben, ils jouent. Il joue, il chante, il se court après. Et donc c'est cela aussi dont il faut témoigner.
Témoigner, c'est donc la troisième mission des bénévoles d'SOS Méditerranée. Et cela passe par des représentations plus réalistes, moins romancées que celles qu'on présente aux enfants. Dans le hall du Rocher, on apprend par exemple aux visiteurs ce qu'est le quotidien sur le pont de l'Ocean Viking avec un atelier sur les nœuds marins.
La méthode non validée par les professionnels. Alors on va dire, ça c'est un serpent. Alors le serpent sort du puits, tourne autour de l'arbre et il re-rentre dans le puits. Non, c'est pas ça. On recommence.
Donc je me fais passer par en dessous.
Voilà, on est d'accord.
Juste à côté, il y a une grande carte posée sur une table, celle de la mer Méditerranée. Ça permet de visualiser cette route de Méditerranée centrale, celle empruntée par l'Ocean Viking lors de sa dernière mission, début novembre.
Du coup là, c'est la représentation en fait de la zone méditerranéenne où on a toute la côte, les pays d'Europe et l'Afrique. Et ce qu'on peut voir, c'est que la Méditerranée est découpée en zones de secours et de recherche. Et chaque zone est entre guillemets contrôlée ou sous l'autorité d'un pays. Donc si on va sur la côte africaine, il y a l'Algérie, la Tunisie, la Libye, et après on a la France, l'Italie et Malte. Donc là, il se trouve que le dernier sauvetage s'est fait dans la zone libyenne. Donc il fallait d'abord demander autorité à la Libye de pouvoir débarquer dans un port sûr. Donc, la Libye ne répond jamais aux appels du navire. Vu les conditions, du coup, ils sont remontés vers l'Italie, à qui ils ont envoyé un appel et qui n'a pas répondu. C'est pour ça que finalement, la France a autorisé à ce qu'on accoste à Toulon.
Cette carte, elle permet à pas mal de visiteurs de se rendre compte de ce qu'est vraiment cette route migratoire la plus meurtrière au monde. Au cours de la journée, ils ont aussi pu comprendre le quotidien de ceux qui la traversent, notamment grâce à la projection du film Lettre à Nicolas, un documentaire d'Ara Caminara qui témoigne de son expérience de photographe à bord de l'Aquarius. Le quotidien à bord d'un navire de sauvetage, Laurence Bondard l'a vécu. Cette porte-parole d'SOS Méditerranée répond en ce moment même aux questions des enfants et des parents sur les 7 missions qu'elle a effectuées sur l'Ocean Viking.
Moi, je suis une personnalité engagée, donc ça a commencé pour moi à Paris, parce que je suis parisienne et j'ai vu des gens dans des campements, dans les rues. J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir une place en tant qu'ancienne journaliste, de pouvoir être les yeux, les oreilles, et de porter la parole et d'être en capacité, effectivement, de soutenir les équipes de sauvetage et de collecter la parole des rescapés. Pour moi, c'est une évidence, à partir du moment où on a envie d'agir, que c'est un des endroits où on peut agir et il y en a d'autres, mais c'est un endroit majeur. Et en fait, à bord, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. Il y a des enfants tout petits, le plus petit qu'on ait vu sur l'Ocean Viking avec 4 jours. Par contre, on voit aussi énormément de jeunes adultes entre 15 et 17 qui vont être tout seuls. Et c'est arrivé même de voir un enfant de 12 ans qui voyage tout seul.
Ça met à peu près combien de temps pour trouver un port ?
Ça dépend. Ça peut prendre plusieurs jours et ça peut prendre jusqu'à 2 semaines en gros. C'est aussi un moment où du coup on a le temps de les rencontrer puisqu'on est bloqués tous. Les équipes sont bloquées, les rescapés sont bloqués, on est tous sur ce bateau pendant plusieurs jours. Donc il y a toute l'équipe qui d'un côté informe les autorités et on fait tout ce qu'on peut en informant et en disant et en demandant un port. Et puis de l'autre côté, du coup, on se rencontre. On échange, on joue aux cartes, comme vous avez vu, on donne des livres, et puis on se parle. Et je pense que j'ai plusieurs histoires pour chaque mission passée, quoi. Parce que c'est vraiment très intense et très fort. Et j'ai plein comme ça de souvenirs qui me sont revenus avec les enfants spécifiquement. Quand on les rencontre, quand on leur porte secours à ce moment-là, ils sont très fatigués, ils ont soif, ils ont faim, ils ont eu peur, ils sont pas bien. Puis au bout de quelques heures, après avoir dormi, mangé, après avoir vu qu'on est souriant, qu'on est doux, ça fait parfois longtemps qu'ils n'avaient pas vécu ça. Ils retrouvent le sourire, ils se mettent à jouer, à gambader dans le pont. Et en fait, ça apporte une énergie sur le bateau pour tous les rescapés, pour tous les membres de notre équipe.
Il y a à peu près combien de pays qui acceptent que les gens du bateau viennent ?
Très bonne ta question. Normalement, la question ne se pose pas trop. C'est-à-dire que le droit veut que ce soit certains pays très précis. Ils ont normalement l'obligation, Malte et l'Italie, il y a deux pays en gros, qui sont les plus proches. Ils ont des hôpitaux qui marchent, ils ont de quoi donc s'occuper des rescapés, de leur donner à manger, à boire. Sauf que Malte, ils répondent jamais. Donc finalement, ça n'est que l'Italie.
Et pourquoi Malte répond jamais ?
Et Malte ne répond jamais parce qu'ils n'ont pas envie de répondre. Quand on leur fait des demandes d'assistance pour trouver un lieu sûr, ils sont aux abonnés absents. Et c'est pour ça qu'après, on va demander aux pays qui peuvent aider à trouver un port sûr. L'Europe se permet de se demander si on doit accueillir ou pas ces gens-là, l'autre. Et donc, au lieu d'appliquer le droit, ce qu'on décide, il y a des débats, il y a des discussions. La question, c'est vraiment juste d'intervenir, c'est d'avoir une opération de sauvetage européenne, qu'on arrête de se poser la question de savoir si on doit secourir ou pas secourir des vies en danger. S'il y a des questions à se poser, on se les pose après.
Ils sont combien sur un bateau en moyenne ? Les migrants.
Le plus qu'on en a eu sur l'Ocean Viking, c'est 572. Peut-être qu'un jour, on en aura plus.
Non, sur un bateau.
Sur leur bateau, oui, à eux, on les trace. Alors, ça dépend de la taille des bateaux. Ça peut aller en moyenne. On va dire qu'en moyenne, ça va être une centaine de personnes. Parfois, c'est des bateaux beaucoup plus petits où il va y avoir 20-30 personnes. Et il arrive qu'il y a des très, très gros bateaux en bois avec plusieurs étages. Où là, il peut y avoir jusqu'à 500 000 personnes.
Avant le concert de Feu Chatterton de ce soir, l'après-midi se clôture sur une dernière table ronde. On s'attend à écouter des témoignages poignants, comme celui de Yann Plantade, secrétaire général de l'UNICEF en Aquitaine.
On défend ici en France les droits de l'enfant et on porte ce message au-delà. Mais on voit bien que, surtout le trajet, c'est encore plus difficile de faire valoir ses droits. Parce que dans un pays, on a des interlocuteurs avec lesquels parler, même si c'est difficile. Alors que sur le chemin, les interlocuteurs sont beaucoup plus difficiles à identifier et les droits sont beaucoup plus difficiles à prioriser. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important de suivre aussi ces enfants-là. L'enjeu, c'est aussi de ne pas les perdre sur la route. Par rapport à l'UNICEF, c'est assez particulier parce qu'on n'est pas une ONG, hein, on est une OIG, donc une organisation intergouvernementale, ce qui veut dire qu'on intervient auprès des populations qui arrivent uniquement sous l'accord du pays. On coordonne aussi les actions qui sont menées sur place et on permet à des associations ou à des ONG qui n'auraient pas la possibilité d'agir avec les accords qu'on a avec les gouvernements ou en tout cas les négociations qu'on entreprend avec les gouvernements. Alors au niveau des chiffres, et c'est ce qui est assez parlant, c'est l'absence de chiffres et l'absence de chiffres fiables. Préoccupant, c'est que justement, on n'arrive pas à savoir parce qu'on n'arrive pas à suivre suffisamment ces enfants-là.
Autre temps fort de cette table ronde, le témoignage de Moussa, rescapé de la Méditerranée centrale et sauvé par SOS Méditerranée il y a quelques années.
Quand je vois cette image-là, ça me rappelle beaucoup de choses. Déjà, tout ce qu'on a vécu à Libye, ça, c'était un peu dur. L'emprisonnement, on ne s'attendait pas à tout ça. J'ai des amis qui ont été décédés à côté de moi en prison. On a travaillé pour les Libyens que pour avoir un peu de trucs à bouffer pendant 9 mois. Ce jour-là, on était 115 personnes dans le Josac. Il y a eu 37 ou 35 morts déjà. J'ai été sauvé par SOS Méditerranée, oui. Toutes les associations que j'ai pu raconter ici, comme l'association Bienvenue, qui m'ont soutenu depuis au début, j'ai pu trouver un peu d'équilibre jusqu'à aujourd'hui qui me soutient encore.
Le public a également découvert Théo et Jeanne, deux ados de 16 et 11 ans, qui se sont engagés auprès d'SOS Méditerranée. Le premier entonne un texte écrit avec ses camarades de classe à l'aide de bénévoles de l'association, tandis que la seconde raconte ce qui l'a poussé à effectuer ce geste citoyen, malgré son jeune âge.
Même si à la base c'est pas le but, on voit beaucoup ça d'un œil politique. On parle souvent de l'accueil des migrants, pourquoi on ne veut pas les accueillir? Mais c'est plutôt des questions politiques, de savoir qu'il y a des partis d'extrême droite qui ne veulent pas, d'autres, voilà. Et justement, avec tout le travail qu'on a pu faire, nous, on voyait ça vraiment dans notre œil, le côté humain de la situation. Mes frères, je les aime, ils ont peur. Peur de la vie, peur de la mort, peur de la mer, peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Peur de la couleur, des pleurs dans la douleur, j'effleure le malheur, des pleurs jusque dans les fleurs. Force aux associations qui aident sans compter, travaillant pleines d'émotions, dans cette histoire cassée. Contre les violences de la guerre, contre les conditions difficiles, contre les missiles et tous les gens qui viennent mourir dans les bras de la mer. L'armée abandonne souvent ceux qui espèrent vivre. Ils ne font que survivre, comme une mouche dans le vent. Les rayons du soleil font des étranglements. Plus de nourriture, plus de futur. Loin des passeurs qui noient les songes, à coups de mensonges, à coups de danger, la mer avale les migrants. Sur un plateau argenté, sentiment angoissé, tranchant comme une dague, alors pour se calmer, ils chantaient sur le bruit des vagues. Ils chantaient dans la guerre, ils écrivaient des poèmes, leurs bouteilles à la mer.
Je m'appelle Jeanne. Il y a 3 ans, j'avais déjà prévu d'aider une association. Je ne savais pas vraiment laquelle. Et puis, lors d'un concert, il y avait un stand d'SOS Méditerranée. Je suis allée voir, j'ai discuté avec celui qui tenait le stand. Et quand je suis repartie, je savais que c'était cette association que je voulais aider. Et donc, j'ai profité d'une fête de quartier pour créer un stand d'objets fabriqués par moi, des amis, mes cousins, ou alors simplement de vieux objets que j'ai vendus. Et j'ai fait ça 2 fois. Et l'argent que j'ai récolté, je l'ai donné à SOS Méditerranée. Quand j'ai pris connaissance de SOS Méditerranée, avant de faire un stand, j'ai fait un exposé à ma classe sur les migrants. Et donc tout le monde m'a dit « Ah, c'est super, certaines personnes sont invitées sur le stand. » J'ai aussi invité mes amis, les personnes de ma famille à m'aider sur le stand. Beaucoup de gens du quartier ont découvert ça le jour de la petite fête et sont venus m'aider. Et donc à la fin, on était vraiment nombreux. Mais quand j'ai entendu parler des SOS Méditerranée, ça m'a beaucoup touchée parce que ça fait un peu peur parce que ces gens vivent sur la mer. Et moi, je voulais aider ces gens comme je pouvais.
C'est certain. Cette journée aura permis aux plus jeunes comme aux moins jeunes de comprendre les enjeux migratoires actuels en Méditerranée et de s'identifier un peu aux enfants et aux personnes qui les traversent.
Elle a mis ses bras autour de son cou, la mer. Il l'a embrassée, elle avait un goût de sel. Elle a mis ses bras, il a ployé sous son aile. Elle a dit, je crois, je sais du décor l'envers. Elle a dit, suis-moi, suis-moi. Fut-elle promise, la terre attendra demain. Ou après-demain, elle a dit, suis-moi. Elle a mis ses bas, lui ses paumes sur ses hanches. Il ne savait pas comment bien tenter sa chance. Défilaient ses bas, défilaient à pas, peau d'azur et blanche. Sur la rive flotte le grand drapeau de l'Europe, étoiles sourdes comme les heures. Vous aussi êtes 12 sœurs. Étoiles sourdes comme les heures, vous aussi êtes 12 sœurs. Qui passez votre tour, tendez-lui vos branches, tendez-lui vos branches. fait une prière à la mer, à la mer. Lance une dernière à la mer. Fait une prière à la mer, à la mer. Lance une dernière à la mer. Oh, Dieu qui le voit et ne parle pas. A tout assourdi, c'est cruel quand on y pense. Le soleil caresse la chair attendrie des enfants qui font la planche. Il y a un monde fou sur la plage aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas dimanche. Ne faites pas de bruit. Là, un enfant dort sous un grand drap d'or. Elle a mis ses bras autour de son cou. La mer.
On est de retour dans Bail de jeunes. Vous avez donc écouté un reportage sur les migrations et la jeunesse. Ça s'est passé au Rocher de Palmer ce dimanche grâce à SOS Méditerranée. Maintenant, on va changer de registre. On va plutôt aller sur le sujet de l'écologie. Puisqu'à quelques semaines, j'ai eu la chance d'interviewer Alice Munoz-Guipuy. C'est une étudiante qui étudie donc à l'École normale supérieure à Paris, mais qui est originaire de Bordeaux. Et donc cette Bordelaise a eu la chance de s'envoler il y a quelques semaines pour aller à Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte et c'est là où s'est passée la COP27, donc ce grand sommet des pays sur l'écologie. Et ce sommet vient de se terminer. Et donc, il y a quelques semaines, j'avais eu la chance d'interviewer cette étudiante sur son statut dans cette COP27, son statut d'étudiante observatrice, mais également sur ses inquiétudes, ses attentes pour cette COP, ainsi que les projets qu'elle développera à son issue. Et donc, vous allez écouter cette interview qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Et juste après, on écoutera la chanson Les Séquoias de Pomme, qui est une chanson qui parle du réchauffement climatique et du fait qu'il faut sauver la planète. Donc, je trouvais que ça allait plutôt bien avec la thématique. Donc, je vous laisse avec cette interview, puis la musique, et je vous retrouve à la fin de l'émission. Alice, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pourriez nous détailler votre parcours? Qu'est-ce qui vous a conduit à l'ENS et donc à la COP27?
Alors, j'ai grandi dans la région bordelaise, autour de Mérignac, où j'ai fait un cursus tout à fait classique. Et j'ai décidé de partir pour la capitale pour faire des études de prépa littéraire. Donc, à l'époque, j'avais pas forcément de conscience environnementale. Et c'est en prépa littéraire que j'ai découvert la géographie, dont une des branches sont les questions environnementales, à la fois à l'échelle locale, nationale, européenne et globale. Et c'est avec cette spécialité que j'ai préparé et réussi le concours de l'ENS et que j'ai décidé d'en faire ma spécialité. Donc l'environnement a commencé à prendre une part de plus en plus importante dans mon cursus. Je me suis rendu compte que je voulais le mettre au centre de mes préoccupations et surtout que j'envisageais pas ma carrière sans prendre en compte les enjeux. Et je me suis heurtée un peu au manque de cursus de formation possible pour traiter ces, ces aspects quand on n'a pas une formation d'ingénieur. En fait, c'est des questions qui sont surtout abordées dans les écoles d'ingénieurs. Et heureusement, aujourd'hui, je fais un master d'affaires publiques où je peux étudier ces questions du point de vue politique et social.
En préparant cette interview, j'ai vu que vous faisiez partie de 7 étudiants qui donc vont être envoyés en Égypte pour assister à la COP27 en tant qu'observatrice et observateur. Est-ce que vous pourriez expliquer précisément le rôle que vous endosserez pendant cette COP27 ?
L'École normale supérieure a depuis 2018, il me semble, un partenariat avec la CNUC, qui est l'organisme qui organise les COP, qui est la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et dans le cadre de ce partenariat, l'école peut envoyer une délégation de 8 étudiants chaque année pour observer les négociations. Donc chaque année, il y a un processus de candidature et cette année, on est très heureux d'avoir l'opportunité de partir. C'est un groupe mixte à la fois en termes d'âge et de discipline parmi celles qui sont étudiées à l'école. Et donc, on va partir pour 2 semaines pour pouvoir prendre part aux négociations en tant qu'observateur. C'est-à-dire qu'on aura accès aux salles de plénière, aux salles de négociation. On va peut-être pouvoir interpeller des personnalités politiques sur place. Et l'objectif, c'est à notre tour de pouvoir rendre compte à la fois à la communauté étudiante qui nous a envoyés et à la fois peut-être à d'autres institutions de ce qu'on aura observé sur place.
Donc en fait, plus que des observateurs, vous allez vraiment être des relais de la parole des politiques à la COP27.
Exactement, et aussi sur place, on peut dire que d'une certaine manière, on représente le point de vue de la jeunesse d'un pays comme la France. On ne peut pas dire qu'on représente la jeunesse à l'échelle mondiale parce que on est quand même très très privilégié, donc on a des intérêts qui ne sont pas forcément partagés par tous les jeunes du monde. Mais en tout cas, on peut porter une parole en disant que, en tant que jeune étudiant qui sommes à l'incipit de notre carrière, on a des attentes fortes vis-à-vis des politiques et qu'on veut s'en saisir à bras le corps à notre tour.
Si j'ai bien tout compris, chaque étudiant a un projet et le vôtre portera sur les négociations climatiques internationales. Et je me suis demandé comment vous l'avez choisi. Je pense que c'est en rapport avec votre master.
Tout à fait. Donc en géographie, il y a plusieurs branches, à la fois la branche environnementale, mais aussi la branche diplomatique. Ce n'est pas nécessairement ma spécialité, mais ça m'intéresse toujours. La COP, avant d'être un événement sur l'environnement, c'est avant tout un événement diplomatique. Ça fait partie des processus qui mettent en scène la communauté internationale et il se trouve qu'on traite de questions environnementales, mais ça ressemble plutôt à un grand sommet comme il peut y avoir sur d'autres thèmes. Et ensuite, donc, les négociations climatiques m'intéressent beaucoup parce que c'est à partir de ces moments comme la COP que vont être décidées des grandes orientations qui ensuite découlent à l'échelle nationale, voire à l'échelle locale. Par exemple, en 2015, quand l'accord de Paris a été pris, on a vu que ça a ensuite été repris par l'Union européenne et que l'Union européenne a elle-même donné des instructions pour que les pays appliquent dans leur politique intérieure les objectifs de l'accord de Paris. Donc en fait, ce genre d'événement, c'est très intéressant parce que c'est l'origine d'objectifs qui sont très importants et qui sont partagés à l'échelle du monde et qui vont donner le tempo pour les années à venir.
Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous attendiez de cette COP27 plus précisément ?
Alors cette COP, elle pourrait ressembler à une COP comme les autres, et c'est sûrement la manière dont elle va être traitée dans les médias quand elle arrivera. Mais justement, moi j'attends d'elle qu'elle ne soit pas une COP comme les autres, et surtout que après les déceptions de la COP 26 à Glasgow l'an dernier, qui a eu un bilan en demi-teinte, j'attends de cette COP qu'elle ne nous ancre pas dans un cycle de défaitisme et où on oublie les objectifs de solidarité internationale. Ce qui se passe de très intéressant avec cette COP, c'est que ça fait 5 ans que la COP n'a pas été dans un pays du continent africain. Donc, elle va pouvoir donner une parole beaucoup plus large aux pays émergents et en développement. En tout cas, aux pays qui vont subir de plein fouet les impacts du changement climatique et qui sont les moins responsables dans les émissions historiques et actuelles. Donc c'est l'occasion d'une tribune pour tous ces pays, pour faire bloc et pour demander davantage de solidarité internationale du point de vue des technologies, des transferts financiers et du poids diplomatique. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu diplomatique à ce que cette COP se passe dans un pays dit du Sud global, parce que c'est l'occasion de modifier un peu le rapport de force à la faveur de la solidarité internationale. Et après, la donne a changé dans la mesure où, déjà en 5 ans, Il s'est passé beaucoup de choses et les impacts du changement climatique sont de plus en plus visibles et ça change la perception qu'ont les pays. Et là, ce qui ressort de manière très claire, notamment après ce qu'on appelle la pré-COP qui vient de se dérouler à Kinshasa, qui réunit pour un dernier point d'étape les pays, c'est que les dirigeants des États africains et d'autres pays vulnérables vis-à-vis des effets du changement climatique sont beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus unis et affichent une volonté de faire front commun. Alors, il faut prendre du recul par rapport à ces déclarations parce que autant ce sont des pays qui demandent à juste titre des aides pour la transition et des aides d'adaptation, autant ce sont des pays qui vont aussi parfois ne pas vouloir sortir des énergies fossiles. Donc, il faut toujours prendre du recul vis-à-vis des postures diplomatiques pour voir ce qu'il en est sur le fond. Mais certains pays d'Afrique affichent une volonté d'obtenir auprès de la communauté internationale les aides à la transition qui sont adaptées à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des mécanismes d'aide qui ont été mis au point, notamment une enveloppe de 100 milliards qui avait été décidée en 2009, et elle n'est toujours pas atteinte. Il y a un autre volet sur lequel les négociations patinent, c'est la reconnaissance des pertes et préjudices. Et de nouveau, c'est un dossier important pour la diplomatie des pays émergents. Et c'est encore une fois un terrain sur lequel ils vont pouvoir gagner en poids s'ils arrivent à s'unir.
L'un de vos objectifs était également de, je cite, « mettre en perspective les décisions prises afin d'appliquer les politiques environnementales à l'échelle nationale, voire locale ». Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et comment on applique concrètement des décisions ambitieuses et internationales chez nous à l'échelle de Bordeaux, voire de ce nom?
C'est une excellente question. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une circulation des objectifs qui sont pris à l'échelle internationale qui descend ensuite vers toutes les échelles de décision et d'action. C'est-à-dire que, donc, comme ce qui s'est passé en 2015, l'objectif de l'accord de Paris qui était la neutralité climatique en 2050 avec ensuite des objectifs gradués de réduction. Cet objectif a été pris, donc ça c'était l'échelle internationale, et ensuite les différents échelons inférieurs, donc régionaux comme l'Union européenne, puis nationaux, puis locaux, se sont fait les relais et les ont transposés en leur droit intérieur. Donc c'est ce qu'a fait l'Union européenne par exemple avec le Green Deal, en demandant aux États membres de fixer cet objectif de neutralité climatique d'ici 2050 avec des plans d'action. Et par exemple, c'est ce que la France a aussi fait avec ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui est une feuille de route qui fixe les objectifs et les budgets carbone dont on dispose chaque année pour atteindre cet objectif. Et ensuite, on peut même descendre encore plus bas à l'échelon local, où, comme vous l'avez dit dans le cas de Bordeaux, il y a des municipalités qui peuvent prendre des engagements de neutralité climatique en phase avec cet accord de Paris. Donc, en fait, il y a plein de municipalités qui, justement, parfois sont situées dans des États qui, eux, ne prennent pas ces engagements, qui forment des réseaux de manière très horizontale, on dirait postmoderne en géographie, pour avancer quand elles estiment que leur contexte national est trop lent. Il y a une vraie circulation et c'est pour ça que ces temps forts internationaux, même si le consensus fait qu'en général, on baisse un peu l'ambition, ils sont importants parce qu'ils donnent un cap pour le monde entier, et après, tous les acteurs qui souhaitent s'en saisir ont la liberté de s'en saisir et de les transposer à leur échelle d'action.
Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie aux étudiants de se lancer eux aussi dans des causes environnementales?
Je leur souhaite déjà beaucoup, beaucoup de courage, de motivation, et surtout essayer de se lancer dans ses études et ensuite dans sa carrière sans défaitisme. La cause, elle peut paraître vraiment immense et perdue d'avance, tout effort qu'on pourra mettre en faveur de l'atténuation et de l'adaptation sera bien à prendre. De toute manière, qu'on le choisisse ou non, on va devoir évoluer dans un monde vraisemblablement à plus de degrés, mais peut-être plus probablement encore plus chaud. Donc ça veut dire que la vie qu'on a connue jusqu'à présent, on ne la connaîtra plus. Et donc que peu importe les études qu'on envisage de faire ou le métier qu'on envisage de faire, on va devoir adapter nos activités, nos modèles de pensée au climat qui change parce que ce sera la donnée fondamentale en fait de notre quotidien. Et c'est un beau défi aussi pour renouveler des métiers, pour renouveler des formations. Nous, on a cette chance en tant que délégation de pouvoir aller observer ce qui se passe à cette COP et donc d'observer dans les coulisses la genèse des grands objectifs internationaux. Mais il ne faut pas attendre que toute la communauté internationale, donc les 197 pays, se mettent d'accord pour agir. Si ces événements sont décevants, il ne faut pas baisser les bras pour autant et il faut pouvoir aller mobiliser selon ses envies, ses compétences et son éthique personnelle, les échelons qui nous paraissent pertinents. Donc ça peut être par le militantisme, ça peut être aussi par des responsabilités politiques et par le choix de carrière qu'on fera. En fait, il y a tout un tas de manières pour s'engager en respectant ses convictions et en restant fidèle à soi-même.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage, Alice Munoz-Guipuy. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier mot à ajouter ?
Peut-être se former à l'environnement dans le cadre d'un cursus académique ou en autodidacte. C'est non seulement une nécessité, c'est aussi un plaisir parce qu'on apprend énormément de choses passionnantes sur le système Terre ou l'adaptation des sociétés, mais c'est surtout un pari gagnant pour demain parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, on ne pourra plus envisager quelle que soit l'activité sans le prisme environnemental et ça donne du sens tout simplement à notre engagement personnel.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 ah. Silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la sève épaisse et mon sang. J'ai respiré en entier pour une fois.
C'est déjà la fin de ce bail de jeunes. Je rappelle que vous avez entendu donc un reportage sur une action de sensibilisation menée par SOS Méditerranée au Rocher de Palmer dimanche dernier à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. Et ensuite, une interview d'Alice Munoz-Guipuy, donc cette étudiante qui a assisté à la COP27 en tant qu'étudiante observatrice et donc témoin d'une jeunesse éco-anxieuse. Je remercie toutes celles et ceux qui ont bien voulu répondre à mes questions et participer donc à ce numéro. Merci à Dylan à la régie et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt, normalement la semaine prochaine, pour un prochain bail de jeunes. Salut !